Bon après-midi sur Europe 1 et bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, vous retrouvez maintenant les meilleurs moments de On va se gêner avec Laurent Ruquier et toute sa bande et entre autres Vikash Dorasso sur Europe 1.
Il s'appelle Jeb et il pourrait un jour être candidat à la présidentielle aux États-Unis. Candidat à la présidence des États-Unis, ce Jeb.
C'est le fils de Bush.
Et c'est un fils de Bush. Bonne réponse de Vikash Dorasso. Vous avez lu ça ? Expliquez.
Il doit être gouverneur d'un État.
Floride. Il était l'ancien gouverneur de Floride et on disait que c'est lui qui avait fait élire son frère parce que le basculement de la Floride était une chose très très importante.
Qui avait joué dans le match contre Al Gore à l'époque. Et là, c'est George Bush, père, qui dit « J'aimerais le voir se lancer dans la campagne. J'aimerais qu'il soit président un jour. » À propos de Jeb Bush, ça voudrait dire qu'on aurait encore un Bush plus. Ça,
à nourrir.
C'est quand même assez rare, faut le dire quand même. C'est dingue, quoi. Christine, qu'est-ce que vous en pensez?
Je sais pas. Moi, j'ai senti beaucoup d'enthousiasme de la part des Américains après l'élection d'Obama en étant aux États-Unis, parce qu'on a senti l'enthousiasme quand on était en France. Mais aux États-Unis, j'ai rapporté à mon ami Eboué un badge d'Obama. Et porter le badge d'Obama dans la rue à New York, les gens disent « Ouais, ouais !» Donc, il y a un véritable enthousiasme. Je vois pas les Bush revenir de sitôt.
Sauf s'il est noir, le Jeb Bush, non ?
Mec.
J'ai fait l'enquête. Il s'est teint en noir depuis l'élection d'Obama en disant « C'est ma seule chance d'arriver à la Maison Blanche. »
Mais excusez-moi, mais t'as ramené un truc à Fabrice de New York ?
J'ai rapporté Obama.
Tu m'as rien ramené à moi.
Tu t'en fous d'Obama.
Moi non plus, d'ailleurs, on m'avait rien ramené.
Rien, parce que c'est que ces histoires-là.
Qu'est-ce que tu m'as rapporté d'Argentine ?
Oh, bah, il t'a rapporté un paquet de pognon depuis 10 ans. Alors, tu pourrais être gentil.
Alors, c'est d'une vulgarité.
Ah oui, je trouve.
C'est d'une vulgarité. On voit bien le petit courtisan.
Ouais, tu vois.
On voit bien le nain de la pensée.
Ah, ouais. C'est le nain
alors,
de la pensée.
Oui, absolument.
C'est le nain de la pensée.
S'il y a deux personnes.
Alors là, si Christine Bravo et Pierre Benichou se mettent ensemble, ça va être terrible.
En plus, tu n'existes que grâce à Laurent Ruquier. Moi, j'existe.
S'il y a bien des personnes qui.
Mais
elle me griffe, putain.
Moi, j'existais avant. Toi, tu n'étais rien. Il t'a ramassé dans le caniveau.
Non, tu vas peut-être un peu loin, mais c'est vrai. C'est vrai que ni elle ni moi ne sont payés ici.
Excuse-moi.
C'est vrai, c'est la bienvenue.
On s'en fout. Il a voulu nous payer un jour.
On a dit non.
On n'a jamais accepté d'argent.
Tu te souviens, Christine, le jour où il a dit. On l'avait invité à dîner au Fouquet et il a dit je voudrais vous payer. On a quitté la table.
Là, vous laissez entrevoir des trucs dangereux à la direction. Là, je vous j'irai pas sur ce terrain-là. Mais...
On va avoir dans un instant quelqu'un au téléphone qui va monter sur un Vélib, mais qui va faire quelque chose d'étonnant avec ce Vélib. Quoi donc ?
Le Tour de France ?
Monter une côte ?
Non.
Ah, ça, c'est dur. Mais oui, c'est impossible, c'est trop lourd.
Pas se faire écraser ?
Non.
Éviter les camions. Hein.
Il va le faire en moins de 48 heures.
Ah, il va
changer une roue.
Et là, je suis assez déçu par Vikash Dorasso qui devrait répondre.
Il va jouer au foot ?
Non.
Monter la butte Montmartre ?
Non.
Traverser la France
Traverser la France, pas jusque-là, mais...
Traverser Paris ?
Non.
Encore Paris-Roubaix ?
Non, traverser
Paris-Le Havre.
Paris-Le Havre en Vélib, bonne réponse de Vikash Dorasso.
Tu peux me dire quel intérêt ?
Pardon ?
Quel intérêt ?
Mais je viens de découvrir pourquoi ils sont tellement copains. Mais elles sont havraises toutes les deux. Mais c'est évident. Oh mais pourquoi bien ça ? Moi je me disais, mais qu'est-ce qui peut vraiment réunir deux êtres aussi différents ? Enfin, aussi aussi inintéressant, mais différent quand même. C'est le Havre.
C'est un caillot.
Bah oui, c'est un petit caillot lui aussi. Nous avons au téléphone Johan Yvalin. Et il va loin aussi, Johan, avec son Vélib, puisqu'il va faire Paris-Le Havre en moins de 48 heures. La grande question que pose Christine, qui n'est pas une question si idiote que ça, c'est pourquoi, monsieur Yvalin?
Ah, pourquoi ça n'a pas un intérêt spécifique, si ce n'est pour m'amuser et m'occuper pendant 48 heures.
Ah, très bien.
Oui, non, mais moi, je trouve que c'est fort quand même. C'est bien de prendre des initiatives. Un bon comme
débit. Ça. Si vous n'avez rien à faire, là, je déménage avec mes cousins. Si
on va se marrer.
Pendant 48 heures, tu auras du boulot, rien que l'armoire.
Est-ce que la mairie de Paris vous donne l'autorisation d'emprunter un Vélib pour aller jusqu'à la mer ? Parce que le but, c'est d'aller voir la mer en Vélib.
Normalement, je ne devrais pas en avoir besoin, puisque Vélib a mis en place un système de minutes bonus depuis quelques mois, qui fait que dès qu'un utilisateur comme moi prend un vélo un Vélib, pardon, dans une station qui n'est pas en altitude pour le déposer à une station d'altitude comme celle de la butte Montmartre. Enfin, l'altitude de toute proportion gardée, puisque sur Paris, on est assez limité. L'utilisateur se voit crédité de 15 minutes bonus qui sont cumulables et 2 minutes, enfin, de quart d'heure bonus en quart d'heure bonus.
C'est le vent du globe, moi, je trouve. Il est aussi intéressant que les, que les marins.
Je sais pas pourquoi la presse nous en parle d'ailleurs aujourd'hui, parce que vous ne partez pas tout de suite. Vous me direz qu'il faut un temps de préparation, mais vous partez le 21 juin prochain.
Alors, l'objectif, ça serait de partir le 21 juin prochain, parce que ça me permettrait de pédaler plus longtemps, 2 jours, en fait.
La presse.
Et puis ça me permettrait aussi d'avoir les 48 heures de minutes bonus que je n'ai pas pour le moment. Mais si la presse en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait un site internet qui me permet d'en parler, qui m'a permis de trouver aussi un sponsor, notamment le nouveau hôtel du Havre qui m'offre la nuit et le petit déjeuner là-bas.
Ah oui, en fait, il veut faire un week-end gratos au Havre.
C'est trop génial. Je n'en reviens pas alors.
Bah, non, mais en 48 heures, j'ai à peine le temps de faire l'aller-retour et de dormir une courte nuit là-bas.
Et pourquoi le Havre, il est havrais? Pourquoi?
Alors je ne suis pas du tout vrai, non, mais pour le symbole, la Seine passant à Paris, je me dis pourquoi pas descendre de la Seine.
Moi je voulais savoir de combien de fois il faut aller à la butte Montmartre pour avoir les minutes bonus là. Combien de fois il faut y aller?
Alors il suffit de
pour avoir 48 heures.
2880 par 15.
Mm-hmm. Combien?
2880 divisé par 15, ça doit vous
d'accord,
faire.
D'accord, bah vas-y, fais-le
toi. Titoff veut pas se lancer dans cette
arrêt en 5e.
Vous êtes cycliste à la base?
Ah non, je suis pas du tout cycliste, moi je fais beaucoup de courses à pied, mais le vélo, je m'y suis essayé une fois, à vrai dire, sur un triathlon, et j'ai été lamentablement dernier, quasiment.
En tout cas, vous avez déjà fait le marathon de New York, effectivement,
à
pied, là vous allez faire Paris, Le Havre, Paris, car vous faites l'aller-retour en Vélib. Hein.
Ah bah oui, forcément,
oui. Ça descend,
vélo dans les 48 heures pour...
Bah écoutez, à mon avis, vous savez quoi, on aura l'occasion d'en reparler d'ici au 21 juin, un événement pareil. On vous applaudit.
Très bel été du côté de Bergerac. Vous écoutez Europe 1 sur 106.2 et nous continuons avec le sourire et dans la bonne humeur avec le best-of de On va se gêner sur Europe 1.
Dans quel cas est-il conseillé de bien serrer la dragonne? Dans quel
cas? Quand on prend des photos.
Non, bah, c'est du ski ça.
Non.
Quand on prend des photos.
Non.
Serrer la dragonne.
Ouais.
Bah, tu vas dans une boîte de nuit de dinosaures. Tu essaies de serrer une dragonne quoi.
C'est un cas bien précis, c'est dans la presse aujourd'hui qu'on nous en parle, on dit vraiment, alors là, il est conseillé de bien serrer la dragonne.
Ah, c'est pour...
pour pas avoir d'enfant?
Non.
Pour c'est la oui. C'est la dragonne qu'il faut serrer.
Pour la oui. Bonne réponse de Vikash Thorasso, expliqué.
Je sais pas parce que j'ai joué à la Wii avec mes petits neveux là.
Mais non mais la dragonne c'est comme au ski.
Mais là il y a beaucoup de maladies je crois à cause de la Wii. Enfin, les vieux ont des problèmes.
C'est comme sur les bâtons au ski t'as la dragonne. C'est l'espèce de petite lanière en tissu que tu te passes au poignet pour pas perdre tes bâtons.
Ah, merci.
Et pour la Wii c'est la même chose avec la manette pour pas qu'elle parte vers la télé et qu'elle casse l'écran.
Exactement.
C'est quoi la Wii? Est-ce qu'on peut aider ce
monsieur?
Est-ce qu'on peut aider la personne qui est là?
La Wii, expliquez à Pierre ce que c'est que la Wii, Christine.
Eh ben c'est la oui. C'est... Je fais le geste.
Mais c'est pas pour lui, c'est pas pour lui.
C'est un appareil.
Venir chez le médecin.
C'est un jeu.
J'ai jamais vu ça.
C'est un jeu.
Je vais vous montrer la photo.
Sport.
Vous êtes devant votre écran, Pierre Benichou. Vous êtes sur une sorte de baisse personne, en quelque sorte. On peut dire ça comme ça.
Un tapis.
Moi, je suis plutôt sur un genre de baisse personne. Et alors?
Et vous êtes, c'est comme un jeu vidéo. Sauf que tous les gestes que vous faites sur cet objet sur lequel vous êtes posé vous permettent de jouer au tennis virtuellement dans votre écran ou à n'importe quel autre sport, de pratiquer n'importe quel autre sport comme si vous y étiez. Mais il faut faire exactement les mêmes gestes, c'est-à-dire que vous descendez à ski chez vous, dans votre salon,
mais
comme si vous étiez sur une piste de neige.
Si, on a la sensation.
Quand je vais faire, je vais en acheter une pour les gosses qui me fassent pas chier à vouloir aller à Megève et à Chamonix. Exactement comme là-bas.
Et alors le problème, c'est que là, il y a des scientifiques anglais qui viennent de se réunir et ils ont d'ailleurs trouvé un nom, un peu comme pour le tennis elbow, ils appellent ça le oui ni. De ni avec un K-N-E-E.
Les genoux.
Le genou ou le coude, hein, je crois que ça.
Ah, Denis, c'est les genoux.
Voilà. C'est le nom qui désigne les affections propres à la pratique du sport sur la Wii, parce que, effectivement, il y a des tas de blessures liées à l'utilisation de la Wii. Et on peut recenser sur Internet des tas d'accidents qui ont été causés par la Wii. Alors, œil au beurre noir, égratignure, fenêtre et abat-jour brisé.
Ah oui, forcément.
On croise des chiens qui ont reçu la télécommande en pleine poire.
Oui, des fois, il y en a, ils l'ont encore, mais pas dans la tête. Hein, elle est coincée encore.
Il y a un chat qui a perdu une dent à cause de la télécommande.
Du coup, la petite souris est pas passée parce qu'avec les chats, ça marche pas.
Ah, ça, c'est joli. très joli.
En fait, c'est un poète,
en fait,
Fabrice Eboué. Ouais, c'est ça, il a un cœur.
Il est tendre, il a un cœur.
C'est Noël, resté un enfant. Souris, tu sais que j'ai...
Et donc...
ouais, il est tendre, il a un cœur, il a des photos d'Obama, tout ça, mais je te coutira, toi. La trêve est rompue.
Et donc, Nintendo conseille aux utilisateurs de la Wii de bien accrocher la dragonne au poignet, bien de manière sûr. À ce que la télécommande ne parte pas.
Je vous laisse venir, mais je savais tout ça. Je suis le fondateur de l'association Non à la Wii. D'ailleurs, trop de blessés, trop de morts.
Ouais, non, mais il paraît que dans certaines maisons de retraite maintenant, et même les vieux
jouent au bowling.
Il n'y a pas
beaucoup de maladies, d'accidents pour les plus vieux. Parce qu'ils ont physiquement, ils sont moins en forme que les plus jeunes.
Justement, c'est le problème des courbatures aussi. Voilà tout le souci. Mais oui, parce que on ne se rend pas compte, mais on se donne quasiment autant que si on faisait vraiment le sport, sauf qu'on est devant son écran et on n'est pas forcément entraîné pour ça.
Moi, j'ai fait Paris-Le Havre en Wii. Je peux dire que c'est épuisant, quoi.
Vous avez fait la Coupe du Monde en Wii.
Je suis bon sur PES. Je suis très très bon.
Ils l'ont pas laissé jouer.
Mais d'ailleurs, je vois pas l'intérêt de la Wii de se dépenser. Ce qui est intéressant avec les jeux vidéo, c'est de faire des sports incroyables ou des jeux d'aventure sans bouger, quoi.
Oui. Ouais.
Où tu peux boire un coup, fumer une cigarette, tu vois,
et tuer tout
le
monde.
Quoi. Tu joues avec, je sais pas, donc avec ça, Grandma, t'es là, tu fais des champions, la Coupe du Monde.
Et puis, le mec, il va jouer au bowling.
Tu peux boire avec sa grand-mère.
Il va jouer au bowling.
Moi, j'ai fait une partie de Wii, j'étais épuisé, quoi.
Épuisé, oui. Jouer à un jeu, descendre les valises à la gare de Lyon. Tu finis en sueur et tout ça. Non, mais c'est une connerie.
Ah oui, c'est un succès fou, là, oui.
Mais ça t'écrit comment, là, oui?
W-I,
comme on dirait.
W-I.
Ah, c'est pas mal.
Ah, oui, oui.
Alors, expliquez, qu'est-ce qui est pas mal?
Bah, en famille, c'est assez cool. Pendant Noël, c'était cool. Les enfants, tout le monde.
Rien n'est cool en famille.
Non, c'était bien. Non, mais ça occupe vraiment quand le repas de Noël est long, ça occupe vraiment bien, quoi.
Et que t'as envie que ta grand-mère fasse un infarctus, tu dis, bah, viens, on fait une partie de oui, mamie.
On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1.
deuxième extrait de l'album de Charlie Winston qui se prénomme Obo. Et tout de suite, vous retrouvez Laurent Ruquier et toute sa bande sur Europe 1 dans les meilleurs moments d'On va gêner.
Europe 1. La question à deux balles.
La question
à deux balles. Parce que c'est la crise.
Et comme c'est la crise, on fait les soldes. Et justement, pour la première fois, il y a des soldes. Où ça? Là où il n'y en avait jamais eu. Où? C'est ma question.
Dans les grands magasins de luxe.
Dans les...
Oh, ça arrive.
Toujours eu des...
J'ai 8 ans, t'as déjà vu le
à
panneau
l'hôpital.
Solde?
Non,
je crois à Emmaüs. Pas. À Emmaüs?
Non.
Au Secours Populaire?
Non. C'est pas en France.
C'est des soldes sur les vêtements, sur de la...
Sur des vêtements.
Uniquement, mais c'est pas en France.
Sur des vêtements sur lesquels il n'y avait jamais eu, et en tout cas dans ce genre...
Ah, la fourrure.
Des soldes.
Vison.
Non.
Des vêtements de bébé.
Non.
On cherche quoi? On cherche une marque? On cherche un lieu?
On cherche un lieu, des boutiques qui vendent des vêtements très spécifiques, où jusque-là, il n'y avait jamais
des maillots de bain,
de soldes.
Non. Des vêtements professionnels?
Professionnel, bravo.
Ah, putain. Enfin, des combinaisons d'astronautes.
Non, professionnel encore, c'est un mot pas, c'est pas tout à fait le bon, mais oui, en tout cas utilitaire.
C'est pour une catégorie professionnelle précise.
Professionnel, c'est pas tout à fait le mot.
Artistique. Des casques.
En tout cas, c'est un lieu et c'est quelque part en Europe où on n'avait jamais vu de solde.
Sur les bleus de travail, quelque chose comme
pas
ça.
Pas sur les bleus. C'est en quelque sorte c'est un bleu de travail, mais c'est pas tout à fait un bleu de travail.
C'est quelque chose de très perfectionné.
Les pompiers, les flics, les militaires.
Non, non.
Est-ce plus artistique.
Non, parce que ça existe en France, vous voyez.
C'est est-ce plus que artistique. C'est, est-ce que les c'est très perfectionné. Les
alors, curés. Je serais
à Rome.
Au Vatican.
Au Vatican. À Rome, les boutiques de vêtements pour le clergé font pour la première fois des soldes. Bonne réponse de Philippe Alfonsi.
Ça, c'est génial. Ça, j'aimerais y aller.
Y moins 40 sur la soutane, moins 40.
Ah, c'est génial.
Pour ne pas être dans le rouge, les magasins spécialisés dans l'habillement pour prêtres, dans le prêtre à porter, en fait, organisent des soldes sur les vitrines. Des petites affiches discrètes, hein, parce qu'ils ont un peu honte, indiquent le mot solde. C'est une grande première autour du Panthéon de Rome de voir des drôle. Soldes dans ce genre de magasin. Mais il faut dire que
Paris.
Les curés, en ce moment, ont du mal à joindre les...
Normalement, ils y arrivent, ça. Ça, ils y arrivent.
Laurent, non.
À joindre les deux bouts, voilà. Et voilà, il y a des soldes. C'est un article de François. Soldes au Vatican. C'est rigolo, quand même, hein, vous imaginez.
C'est
pas mal.
Alors, c'est juste les soutanes, en fait.
Pas seulement les soutanes.
Non, la totale.
Bah oui, parce que...
Les vieilles hosties aussi.
Ça, on solde pas beaucoup sur l'alimentation. Enfin, vous me direz que c'est pas de l'alimentation.
Une messe, hostie.
T'as mangé ce midi une hostie. Mais...
On solde pas sur l'alimentation.
Et alors, quand tu veux acheter une soutane, t'es obligé de prouver que t'es prêtre ou quelque chose? Ou tu peux n'importe qui?
Ah, ça, c'est une bonne question.
Non, bien sûr que non. Il y en a à Paris.
Si t'as un BAFA, ça suffit normalement.
Un proverbe dit que le sourire que tu envoies revient obligatoirement vers toi. Et bien avec Laurent Ruquier et toute sa bande, vous recevez mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sourires et de rires tous les après-midi avec les meilleurs moments d'On va se gêner.
Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur.
Delphine et Arnaud nous attendent au téléphone. Delphine est à Château-Thierry dans l'Aisne. Bonjour.
Bonjour.
Que faites-vous dans la vie, Delphine?
Je suis chef d'entreprise.
Chef d'entreprise, quel genre?
Service à la personne.
Du service à la personne.
Et quel genre de service?
Ouais. Ménage, repassage, garde d'enfants, soutien scolaire, etc. pour les particuliers.
Très bien. Vous pouvez passer à la maison?
Bah, quand vous voulez. Et en plus, je vous fais 50% de déduction fiscale à la fin de l'année.
Parfait.
Et t'avales aussi ou pas?
Oui.
Et Boué. Qu'est-ce qui vous a pris?
Pardon, excusez-moi.
Vous n'avez pas entendu, hein, Pierre, heureusement.
Si, j'ai entendu.
On peut pas faire croire que c'est Pierre Bénichou qui a dit ça?
Franchement, Pierre.
Non, sérieusement.
Je peux laisser un petit mot pour Franck Dubosc?
Oui, bien sûr.
Alors, samedi, je suis au 16e rang, place 24.
Ah, bravo! Ça, c'est mignon.
Très bien. Mais promis, vous ne ferez pas le ménage. Hein, vous regardez le spectacle.
Je ferai le ménage de la loge éventuellement à la fin, si vous voulez.
Wow,
ah, ben. C'est gratuit.
Bah, vous, oh mon Dieu. Attendez, j'avais pas... Et alors, la question précédente, vous n'avez pas répondu, par contre. Je vous ferai un gros bisou à la fin, si vous restez.
Ah, bah, c'est gentil. Et puis, en tout cas, j'adore aussi Pierre Bénichou, parce que je suis comme lui. Je suis grande gueule, ronchonneuse et parfois de mauvaise foi.
Mais une bonne affaire quand même. Hein.
Arnaud habite le Luxembourg, bonjour.
Bonjour.
Luxembourgville.
Oui, c'est ça.
On s'emmerde pas trop au Luxembourg?
Oh non, bon, non, ça dépend des jours, ça va.
C'est vrai?
Ça
dépend.
Oui, oui.
Vous travaillez dans une banque?
Ah, pas du tout.
Ah, qu'est-ce que vous faites?
À la brigade fiscale.
Je suis monteur pour les chaînes de télévision et des documentaires.
Monteur? Quelle place samedi?
Exactement.
Alors attention, voici la question qui va vous opposer Delphine et Arnaud. Il faut aller plus vite que les 7 chroniqueurs ici présents. À partir du mois de février prochain en Argentine, les arbitres des matchs de football vont porter à leur ceinture une petite bombe aérosol qui servira à quoi?
Pour la distance avec le mur. Enfin, la distance avec le mur pour mesurer.
Bravo, expliqué.
Oh là. En fait, ils vont placer le mur, ils vont tracer une ligne avec la bombe aérosol. Et c'est pour que le mur soit à bonne distance, pour vérifier.
Excellente réponse d'Arnaud.
Bravo.
Le terrain va se retrouver avec plein de marques partout alors.
Non, c'est de la mousse qui disparaît.
Et voilà, c'est de la mousse qui disparaît et au moins l'arbitre pourra voir la marque exacte de l'endroit où on doit mettre le ballon à 4 coups francs. Vous avez lu ça dans l'IB?
Non, sur l'équipe.
Sur l'équipe. C'est une bonne idée.
Hein, il parle de ça dans l'équipe.
C'est très drôle. Il parle de foot dans l'équipe, mais non, c'est pas possible.
Vous saviez pas, Pierre?
Moi non, je savais pas du tout.
C'est vrai
non,
que le mur n'est jamais à bonne distance.
Depuis la libération en grande pompe du supporter marseillais, je ne veux plus entendre parler de foot pendant des années.
Pourquoi?
Parce que c'est honteux.
Santos?
Ils ont ramené ce mec-là avec sa queue de cheval et ses machins. Ils lui ont envoyé un avion, dis donc. Un avion est arrivé, putain, Marseille respire mieux. Ils disent, non, mais je te jure.
C'est vrai, vous avez raison. Les crétins, faut les laisser en prison.
Non, pas les laisser en prison. Mais surtout qu'il n'avait pas pris trop cher, 3 ans et demi. C'est pas tellement, quand même.
c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le retour du mec. Et puis, en même temps, la libération d'un mec des FARC qui vient s'installer en France.
Bien sûr, oui.
C'est formidable.
Oui, il vient chez Pierre. Mais chut, personne ne le saura.
C'est vous qui recueillez l'ex-terroriste des FARC, Pierre?
Non, je n'ai pas terroriste, je n'ai que des dictateurs à la maison.
Que des criminels de guerre, c'est tout.
Oui. Tu te rends compte que le mec des FARC, par exemple, il croise Pinochet? Parce que les Pinochets sont là.
Ils sont là aussi.
Les Pinochets sont là, les enfants Pinochet sont adorables, absolument.
Les Ben Laden, vous les avez toujours?
Ben, les Ben Laden, je les ai, mais je sais pas s'il est pas en train de me...
Ils viennent de temps en temps faire un tour, ou deux.
Laurent, je crois que nous avons encore un auditeur qui a gagné un filet Garnier et qui attend sa composition au téléphone. Non, je dis ça parce que vous allez citer une vie de chat chez Casterman dans la liste. Quand je vous dis avant les fêtes, c'est bien.
C'est vrai qu'Arnaud gagne votre album Une vie de chat de Philippe Geluck chez Casterman, des tas de livres, des tas de places pour aller au théâtre. On vous applaudit, Arnaud.
Merci beaucoup.
Et nous retrouvons le rire avec Laurent Ruquier et toute sa bande sur Europe 1.
On va avoir au téléphone dans un instant monsieur Zéboulon. Pas Zéboulon, attention parce que je vous vois venir. Monsieur Richard Zéboulon qui est photographe bordelais. Et ce photographe vient de photographier quelque chose d'étonnant qu'on peut voir dans VSD cette semaine. Quoi donc?
Un objet?
Oui, un objet non.
C'est quelque chose de bordelais?
Une personne.
Non, mais je veux dire, c'est un truc qui est à Bordeaux parce que Bordeaux a été refait complètement.
Il se trouve que c'était à Bordeaux.
Non, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on a souvent devant les yeux mais qu'on ne voit pas sous cette forme-là?
Non.
C'est
une
personne.
Ça, moi, c'est une chose que je n'avais, je vais vous dire, jamais vue.
C'est vivant?
Un animal?
Alors, vivant, non. Mais
c'est
ça l'a été.
C'est un squelette.
Ah, un squelette, on se rapproche.
C'est une momie. C'est une momie, un dinosaure.
Non.
C'est pas un os, c'est pas des cendres.
Mais ça a été.
Ah, un os, oui, il y a plus d'un os là-dedans, ça c'est sûr.
Donc c'est un squelette.
C'est un animal, c'est un squelette d'animal.
C'est pas un squelette d'animal.
Et c'est pas un être humain.
Un squelette
c'est un être humain, pardon.
Arrête de dire un os.
C'est pas un être humain.
C'est peut-être un être humain.
Non, c'est.
Ah, est-ce que c'est pas justement des siamois, c'est-à-dire justement
non,
un être
non.
un peu.
Mais c'est dans le formol, ça c'est vrai.
Un enfant. Un
fœtus?
Pourquoi je vous dis que c'est pas un être humain? Parce que c'est un morceau.
Ah, c'est le cœur du roi.
Le cœur, oui.
Non.
Non, mais ça on l'a déjà vu, le cœur du roi.
Un doigt.
C'est le doigt de qui?
Toi-même, hein.
Le cerveau de Mozart enfant.
Attendez, c'était un être qui vivait au début encore du 20e siècle?
Oui.
Ah bon, c'était une affaire criminelle importante.
Non. C'était une femme.
Ça appartenait à une femme.
La femme à barbe.
Non.
Dont on voit enfin la barbe.
C'est la femme sans tête. Non. On a retrouvé sa tête.
Ça a été une femme célèbre.
Ça a été une femme
célèbre. Matahari.
Non.
C'est une chanteuse.
Non.
Une comédienne. Sarah Bernard.
La jambe en bois de Sarah Bernard. La jambe authentique de Sarah Bernard. La jambe qui avait été amputée de Sarah Bernard.
La jambe amputée de Sarah Bernard. Bonne réponse. de Michel Bernier et Gérard Miller. Enfin, on voit effectivement la jambe de Sarah Bernard. Elle a été retrouvée. C'est un photographe bordelais qui a mis la main sur cette relique qu'il a pu photographier. On voit ça dans VSD cette semaine. C'est François Julien qui signe tout un papier sur la jambe de Sarah Bernard retrouvée. Bonjour Richard Zeboulon.
Bonjour.
Alors, j'ai cru que c'était une blague en fait quand j'ai lu le papier au départ. Parce que déjà, votre nom, c'est un vrai nom ça, Zeboulon ?
Ah oui, c'était une des 12 tribus d'Israël. C'était un fils du petit Jacob. Oui, c'est un nom authentique. C'était celui de mon père, de mon grand-père, etc.
Bah alors, très bien, monsieur Zeboulon, vous avez en tout cas photographié la jambe de Sarah Bernard à Bordeaux. Pourquoi elle est à Bordeaux d'abord ?
Elle s'était réfugiée à Bordeaux en 1914 et en 1915, elle ne pouvait plus habiter à Belle-Île-en-Mer. Et donc, elle était là et elle était blessée au genou. Elle s'était adressée à un de ses anciens amants. Elle en eut beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était Samuel Pozzi, qui est officier au Val-de-Grâce à Paris et qui n'a pas pu l'amputer. Parce qu'il était à Paris, elle était à Andernos, et donc il l'a confiée à un de ses confrères, le professeur Denucet, qui a gardé sa jambe, et qui avait disparu lorsque l'Institut médico-légal a quitté les locaux de la fac de médecine. Moi, je la recherchais pour un livre, Bordeaux secret insolite, et en fait, on avait perdu cette jambe. Et un concours de circonstances a fait que j'ai rencontré un monsieur qui savait qu'elle était dans un recoin de la faculté de médecine de Bordeaux.
C'est rigolo qu'on n'ait jamais pensé à rechercher la jambe de Sarah Bernard.
D'un autre côté, pourquoi l'aurait-on recherchée ? Oui, c'est voit à un moment quelqu'un qui se dit, tiens, il faudrait la retrouver. Non.
Si. Oh, ça me manque.
Si, moi, je trouve ça génial que d'un seul coup, on nous montre la jambe de... Mais... Comment on est sûr que ce soit la sienne, monsieur ?
Oh, parce qu'elle a été conservée, il y a une tradition, on savait qu'elle était là, et on sait qu'il y avait une étiquette également très ancienne sur le bocal. Je veux dire, si on voulait s'en assurer à 100%, il faudrait faire une étude comparative ADN avec les descendants de Sarah Bernard, éventuellement.
Mais alors, faut peut-être préciser pour les plus jeunes qui nous écoutent, oui. Qui était Sarah Bernard, parce que mine de rien, aujourd'hui, on l'a parfois un peu oublié. Donc, grande tragédienne peut-être française. La plus célèbre du début du 20e siècle.
Il n'y avait pas beaucoup de femmes qui faisaient du théâtre, quand même. Voilà. Et elle est devenue très célèbre.
Il y avait la grande Rachel, quand même.
Oui, mais enfin, elles n'étaient pas nombreuses, hein.
Mais Sarah Bernard a défrayé la chronique par rapport à Madonna, c'était puissance 1000. Je veux dire, c'est une femme au 19e et au début du 20e qui a fait deux tournées en Amérique du Nord, une en Amérique du Sud. Le tsar de toutes les Russies s'est incliné devant elle, lui disant « Madame, redressez-vous, c'est à moi de me plier devant vous ». Elle a fait une tournée en Égypte, en Turquie, c'est assez extraordinaire. Et sa vie sentimentale a été fabuleuse aussi.
Un monstre du théâtre, Sarah Bernard, dont on a retrouvé la jambe à Bordeaux et que vous avez photographié.
Qui a inspiré Guillaume Depardieu et de nombreux comédiens.
Oh non, Monsieur Zeboulon, vous remercie.
Mais il y avait une blague sur Sarah Bernard où quand on entendait les trois coups, on disait tiens, la voilà.
Tape avec sa jambe.
Exactement. Alors justement, dans l'article de VSD, on nous dit que ça c'est un bon mot qui a été attribué, d'ailleurs de façon certainement erronée à Sacha Guitry. Qu'en plus, ça devait pas être vrai parce que quand elle a commencé à avoir cette jambe de bois, elle ne jouait quasiment plus que des rôles assis. Voilà.
Absolument. Donc, L'Aiglon, elle l'a joué assis. Absolument. Mais il y a un bon mot de Sarah Bernard, vous connaissez peut-être. L'amour, c'est un coup d'œil, un coup de rein et un coup d'éponge.
Ah, très bien, joli. Mais je vois que vous ne manquez pas de ressort, monsieur Zeboulon.
Oh.
Et on vous remercie, on vous applaudit.
Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1.
Allez, on retrouve le sourire avec Laurent Ruquier, les meilleurs moments d'On va se gêner sur Europe 1.
On apprend dans la presse cette semaine qu'elle a failli mourir, qu'elle a été transportée à l'hôpital, qu'elle est défigurée et que les pompiers sont intervenus en urgence. De qui s'agit-il ?
Oh, c'est un animal, je pense.
Ouais, c'est pas un être humain.
C'est pas l'avoir au téléphone.
Non, c'est pas ça. Si on dit qu'elle est défigurée, c'est totalement grossi dans Ici Paris ou dans un journal comme ça.
Elle est pas vraiment défigurée.
C'est quelqu'un qui a une petite griffure qui s'est coupée en se rasant.
Non, c'est quelqu'un
quoi.
Qui s'est fait un lifting.
C'est Amand Delire qui s'est coupée en se rasant. Elle est défigurée.
L'actrice de la bande à Ruquier a été victime d'un terrible...
Isabelle Mergault ?
Non.
Valérie Mérès ?
Valérie Mérès, bonne réponse de Gérard Miller. Merci beaucoup. Attendez, attendez, Valérie, là, il faut qu'on vérifie, parce que quand je suis tombé là-dessus ce matin, j'ai été très inquiet. Est-ce que ça va mieux, Valérie?
Mais c'est vraiment, moi, je suis traumatisée par la connerie des journaux comme ça et qu'il faut pas lire, quoi.
On va vérifier ensemble tout ce qu'ils disent. Vous êtes d'accord? La truculente complice de Laurent Ruquier sur France 2.
Je ne suis pas truculente, je suis irrésistible.
N'oubliera jamais son séjour à Sarlat, où elle a traîné sa nouvelle pièce. Valérie Mérès n'a dû son salut qu'un réflexe remontant à l'enfance.
C'est quoi un réflexe?
Enfin, je ne sais pas. On va en savoir plus après. En tout cas, le gros titre, c'est défiguré. Est-ce que vous êtes défiguré, Valérie?
Non, pas du tout, Laurent. Je dors sur le ventre.
En pleine nuit, la ligne d'urgence des sapeurs-pompiers de Sarlat retentit. Au bout du fil, le veilleur de nuit de l'un des hôtels les plus courus de la capitale du Périgord. Un établissement.
En plus, c'était pas le veilleur de nuit, c'était un de mes copains avec qui je joue dans la pièce parce qu'il y avait personne à la réception.
Un établissement réputé pour son élégance, son confort et son calme. Trois petits points de suspension.
De mercure.
Venez vite, une de nos clientes est blessée. Une partie du plafond s'est écroulée sur elle pendant qu'elle dormait, explique l'employé de l'hôtel sous le choc. Aussitôt, l'officier de permanence, prenant conscience de la gravité de la situation, dépêche sur les lieux une équipe et un véhicule d'assistance aux blessés. Le gyrophare bleu traverse à toute allure Sarlat jusqu'à l'hôtel.
Il y a écrit ça ?
Ah ben oui, il a écrit ça. C'est génial. Mais ça, j'adore pour ça ici Paris, moi. Ça me fait trop rire. Il n'y a pas eu de gyrophare bleu qui a traversé la ville?
Il n'y avait pas de gyrophare bleu, donc pas du tout. Dommage.
Une fois sur place, les pompiers montrent 4 à 4 l'escalier.
Et il n'y avait pas de pompiers non plus, dommage.
Et arrive dans la suite où le drame s'est déroulé.
Ah, dans la suite, hein, ouais, mine de rien. Tu te refuses rien, Valérie.
Il y avait une chaise à côté du lit. Hein.
Un vrai spectacle de désolation. Comme si un ouragan avait tout balayé. Sur le lit recouvert de gravats, la cliente blessée par des éclats de plâtre et de béton est encore groggy et ne comprend pas ce qui s'est passé.
Non mais attends. Est-ce que des sauveteurs sont venus vers toi?
Ben on a appelé le 15. Oui, non, je saignais énormément, c'est pas du plâtre et du béton, c'est des lambris d'abord. Ouais. Qui sont détachés du mur. Et puis non, je saignais beaucoup parce que quand on est blessé au crâne, on
saigne beaucoup.
Quand même.
Et j'ai eu hyper peur, mais à part ça, d'abord, je ne vois pas pourquoi c'est dans les journaux, je les emmerde.
Mais ça, c'est pas le problème. Voilà. Nous sommes bien informés à ICI Paris, nous faisons notre travail de journaliste, excuse-nous à ICI Paris. Et nous donnons une nouvelle de première importance.
Immédiatement, attendez, parce qu'il y a la suite. Les sauveteurs identifient la victime. C'est Valérie Mérès, l'attachante comédienne qui figure parmi les pensionnaires préférés des téléspectateurs de France 2 au sein de la bande à Ruquier. Heureusement, le diagnostic est très vite rassurant. Pas de fracture, ni de traumatisme, mais des ecchymoses et des plaies, notamment au visage, qui nécessitent d'être recousues. Valérie Mérès est dirigée aussitôt vers l'hôpital de Sarlat, que l'ambulance des pompiers rejoint rapidement.
En fait, elle s'est fait faire un lifting.
Et elle nous raconte cette histoire pour le justifier.
Ouais. Non, c'est pas que je Valérie.
C'est Christine, mais, évidemment.
Non, j'ai rien sur le visage. Je vous dis, c'est le crâne.
La comédienne ressortira quelques heures plus tard avec plusieurs points de suture au visage, une belle frayeur et la certitude d'être passée très près de la mort. L'enquête a permis d'établir que l'actrice doit sans doute une fière chandelle à une habitude ancienne, Valérie.
Oui.
À votre avis?
Clouée dans les hôtels?
Mais pas du tout.
Elle dort sur le côté.
Et voilà.
Mais c'est une habitude ancienne.
Mais oui.
Ça
t'aurais été en levrette, c'était le coup du lapin. Hein.
C'est qui là?
C'est Fabrice Eboué, évidemment.
Ah ben c'est ce que m'a dit, parce que c'est exactement ce que m'a dit Arthur Junior qui est avec moi dans la pièce, qui était. Il m'a dit, heureusement que je savais que t'étais toute seule, parce que sinon je t'aurais jamais cru que c'était tombé comme ça.
Quelques heures avant cet accident imprévisible, Valérie était aux côtés de Jean Benguigui et Arthur Junior à l'affiche de sa nouvelle et excellente pièce Chat en poche, un grand classique du rire, signé Georges Feydeau. Après la représentation, la comédienne avait dîné avec la troupe, puis regagné sa chambre. La suite, on la connaît.
Tu vas demander des dommages et intérêts quand même.
Bah on va voir, oui, mais de toute façon, je ne suis absolument pas défigurée. Hein.
Arrête de dire
ça. Arrête de minimiser.
Il faut que tu dises, je suis défigurée, c'est atroce, je souffre.
Très, très mal.
D'ailleurs, je boite.
D'ailleurs,
on m'a coupé la jambe.
Ma jambe est photographiée à Bordeaux
dans du formol.
Non, mais et la preuve, regardez cet article dans Ici Paris.
Mais oui. Enfin,
non, mais il y a quand même quelque chose que je voudrais éclaircir. Je passe sous le contrôle de Christine, qui connaît bien les médias. Tu me ferais pas croire que quelqu'un qui a une pièce qui arrive à un livre qui arrive à Paris le 5 février, comme par hasard, il y a un incident un mois avant dont tout le monde parle dans toute la presse, y compris Europe 1, qui est quand même une radio
presse,
sérieuse.
Tu rigoles, c'est Ici Paris.
Ça m'étonnerait que tu ne l'aies pas fait exprès.
Je suis fière d'être dans Ici Paris, mon Dieu.
Oui, mais attends, Ici Paris lance la rumeur. Non, Europe 1 reprend la chose et demain c'est partout.
Vous êtes trop méchante avec ce journal parce que moi je trouve qu'ils ont le don. Pour moi je trouve que c'est bien raconté.
Est-ce qu'on la voit?
C'est drôle. C'est franchement Valérie, je vous jure.
Franchement, la dernière fois que vous avez parlé de moi, c'était pour dire que j'avais enfin trouvé l'amour à 50 piges, faut pas déconner non plus.
Mais l'essentiel c'est qu'on parle de nous voyons.
Ben moi j'aime bien qu'on parle de moi dans les trucs que je trouve chic.
Ah mais il y en a peu aussi.
Bah, vous savez que dans Plâtre et Bâtiments Magazine, vous avez un article.
Non. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi...
Ils disent que je suis défigurée quand même, c'est des conneries.
Valérie, je voudrais quand même savoir pourquoi, dans la chambre au-dessus de la tienne, il y avait Jean Benguigui qui sautait sur son lit. Comme un ça n'est quand même pas tombé par hasard, ce plâtre.
Bon après-midi sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et toute son équipe dans les meilleurs moments d'On va se gêner que vous pouvez écouter par podcast sur notre site internet europe1.fr.
Ah, ça va pas être facile cette question-là. Si je vous dis qu'Aaron Johnson vient d'obtenir le rôle principal d'un film, mais quel rôle va-t-il jouer dans ce film, Aaron Johnson, qui a 18 ans seulement?
Il était connu avant ce...
Non.
Parce que je suis pas très doué en people.
Moi, je suis doué.
Aaron Johnson, on connaissait pas avant.
Alors moi, perso, je connaissais pas.
Bon, non, c'est pour ça, dans un film américain?
Alors, je sais pas si c'est américain ou anglais. Ce serait peut-être plutôt britannique, ce film, qui va s'appeler, je peux même vous dire son nom, Nowhere Boy. Ah,
le garçon venu de nulle part.
Vous voulez quoi? Le titre du film?
Non, non, le rôle qu'il va jouer.
Bah, il va jouer le rôle de Roswell.
Pas du tout, pourquoi? Rôle d'extraterrestre.
Parce que venu Nowhere, de nulle part.
Ah non.
C'est extraterrestre.
C'est un film historique?
C'est pas alors, historique, si mais c'est ce qu'on appelle un biopic.
Ok, il va jouer le rôle d'une star.
Le rôle d'Obama.
Alors, est-ce que c'est un rocker?
Et c'est d'ailleurs Christine Scott Thomas qui jouera sa tante dans le film.
Sa tante, je sais pas, il va jouer Mick Jagger jeune.
Pas Mick Jagger.
Alors, Paul McCartney, John Lennon.
John Lennon, bonne réponse de Caroline
Diamant. Elle trouve tout et elle nous sauve.
Encore allez. John Lennon et McCartney, tout ça. Mais enfin, quand même, il y a quand même d'autres vedettes. Bono, par exemple.
Non, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de biopic
la
sur...
La vie de Bono, mais enfin, ouais. Franchement.
Mais Bono de U2.
Oui. Oh là là, de U2.
Il a appris l'existence de U2
hier soir. Hier soir, avec mon fils, il dit, oh là là, je vais le constat U2. Je dis, mais U2, c'est bien, moi j'ai dit U2. Alors il dit, c'est pas vrai, t'en es pas là quand même. J'ai dit, mais tu connais, j'ai dit, pas vraiment. Alors il me dit, mais tu connais Bono quand même, oui. Celui qui fait le truc à la télévision avec la maman. Alors elle me dit pas du tout, du tout, du tout. Bono, c'est aussi célèbre que John Lennon et que Mick Jagger. C'est vrai ou pas?
Pas quand même.
Non.
Il est très très célèbre.
Très, très célèbre.
Mais il est pas
Bono.
Aussi célèbre. La preuve, c'est que vous le
moi,
connaissez pas.
Je connaissais Trabaja Bono, trempe ton cul dans la soupière, dis-moi si c'est chaud. Mais c'est tout ce que je connais.
Europe 1.
La question Jones.
Que Bénichou ne va pas comprendre.
Alors Pierre, c'est pour vous cette question, vous
alors,
l'avez
allez-y,
compris.
C'est de la tarte, allez-y.
Comment ça c'est de la tarte?
Ça va être de la tarte pour moi.
Attends, il connaît quand même U2 hein.
C'est vrai, mais je pense pas qu'ils connaissent Annette Tison et Talus Taylor. Annette Tison et Talus Taylor sont à l'origine d'une famille qui fait son retour à la télévision. Quelle famille?
La famille Adams?
Non.
La famille... c'est par rapport à Koh-Lanta?
Non.
La famille formidable?
Non.
C'est
sur M6 que cette famille a fait son retour la semaine dernière. Et c'est vrai que c'est Annette Tison, une architecte française, et Talus Taylor, un professeur de maths américain, qui ont créé cette famille.
Donc c'est pas les Bougons.
C'est pas les Bougons.
C'est pas Friande?
Friande.
Friends.
Ah, Friends, oui, pardon. Non, non, je voulais
Friande au fromage.
Vous les prononcez comme toi.
Friande au jambon.
Attendez. C'est une Française et un Américain qui ont créé ensemble.
Voilà, une architecte.
Ils ont créé.
Je vous l'ai
France...
dit, une architecte française, Annette Tison, un professeur de maths américain, Talus Taylor.
Mais ils ont créé une série française ou une série américaine?
Une série française, madame.
C'est une série.
Qui passe sur M6.
Caméra Café 2, peut-être.
Qui passait plus et qui revient sur M6.
Caméra Café?
Depuis la semaine dernière. Non, pas Caméra Café.
C'est pas la famille de la petite maison dans la prairie.
Non.
Non.
Mais elle te dit que c'est...
Ah, c'est Samantha, là. Comment elle s'appelle?
Non plus.
Mais non, c'est français.
Oh non, non, parce que...
Madame est servie?
Non, la famille date des années 70. Madame est servie. J'adorais Madame est servie.
Aussi.
Pas mal, hein.
Avec comment il s'appelle?
Tony Danza.
Tony Danza. Sa fille était mieux, là, la petite.
Alissa Milano.
Alissa Milano.
Bon, à l'époque, elle avait 12 ans.
Bah, c'est ça qui nous plaisait.
Chacun ses goûts.
Est-ce que c'est du dessin animé?
C'est du dessin animé.
Les Barba Papa.
Les Barba Papa, bonne réponse de Titoff. Pierre, vous voyez, qui c'est les Barba?
Bah oui, les, bien sûr, les Barba Papa.
Expliquez.
Mais non, je ne sais pas ce que c'est que les Barba Papa. Bon, les Barba Papa, c'est ce qu'on vend dans les foires.
C'est l'équivalent des talibans au Pakistan.
Ça, c'est nos enfants, ça.
Il y a une bande-annonce, hein, il paraît, pour le retour des Barba Papa.
Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, les Barba Papa sont de retour, avec plein de personnages inédits. Barba Éboué, il peut se transformer en n'importe quel tueur en série. Youpi! Barba Bravo, avec ses fringues de Jones, elle rêve de se transformer en Barba Bonasse. Mais la plupart du temps, c'est plutôt en Barba Boudin. Barba Nichou, grincheux et carrément vicelard. Il veut pécho la Barba Cochonne et tabasse les Barbacons. Et Barba Joujou, un François sous le bras, un Parisien entre les jambes et un Figaro dans le cul. Il révise nuit et jour, mais en cachette, seul dans sa chambre. Il aime se transformer en Barba Ruquier. Les Barba Papa 2009, les gosses n'ont pas fini de faire des cauchemars.
Bravo à Michalak et Crampon. C'est-à-dire que vous vous écrivez vos propres vannes.
J'ai beaucoup de recul sur moi-même.
Il y a aussi un dessin animé qui arrive là sur France 5, c'est Hello Kitty dans Debout les Zouzous. C'est la petite chatte préférée des petites
filles.
Mais c'est écrit comme ça,
bah
c'est
oui,
pas
mais c'est ça.
C'est la petite chatte préférée des petites filles, ouais. Voilà.
Mais même les adultes d'ailleurs. Hein.
Moi j'adore honnêtement, j'ai
c'est vrai
qu'Hello Kitty, ouais.
Oui, vous voyez pas non plus ce que c'est ça Hello Kitty, hein, Pierre.
Ah si, Hello Kitty c'est la petite chatte préférée. C'est tout des petites filles.
Mais regardez Debout les Zouzous, vous saurez comme ça.
Je ne regarde jamais Debout les Zouzous, moi. Je joue du piano debout.
C'est une japonaise qui s'appelle Ikuko Shimizu qui en 74 a inventé Hello Kitty qui est devenue une marque avant d'être un dessin animé en 3D que vous pouvez voir désormais sur France 5.
C'est Michel Fourniret qui avait une camionnette Hello Kitty.
Et oui, vous savez que le sourire, ça rime obligatoirement avec le rire de Laurent Ruquier et toute sa bande dans les meilleurs moments de On va gêner, jusqu'à 18h. C'est sur Europe 1 tous les jours, et oui, 7 jours sur 7.
Demain sera livrée à l'Élysée la galette des rois de l'Élysée. Et chaque année, c'est un artisan qui est choisi. Là, curieusement, allez savoir pourquoi, c'est un pâtissier de Levallois-Perret qui a été choisi pour cette galette. Il faut dire qu'il a obtenu le trophée de la meilleure galette.
Et en plus, c'est le copain, le père de Levallois-Perret, c'est le copain de monsieur Balkany, qui est l'ami de monsieur Sarkozy. Ils ont tous des noms en nid, d'ailleurs. Ils seront trois pour la galette, d'ailleurs.
Ah oui.
Il y aura Carla, il y aura Nicolas, et puis Fanny aussi.
Et puis Fanny, ça fait 14 ans que je... Oui, j'avais compris. Je précise, hein, parce que...
Oui, moi, j'étais très loin de ça.
Oui, moi aussi.
Moi, j'ai eu peur de comprendre.
Mais c'est pas votre calendrier,
vous. Ça fait 14 ans que
On le dit pas souvent, mais on oublie que la galette des rois, c'est une tradition qui nous vient de Thaïlande.
Ah oui?
C'est pour ça que c'est toujours le plus jeune qui va sous la table.
Ça fait 14 ans que je prépare la galette pour le président et ses convives, dit monsieur Potet, l'artisan de la rue Victor Hugo à Levallois-Perret. Mais il y a toujours une petite appréhension à préparer cette galette. Il faut qu'elle soit bonne, il faut que tout le monde soit content. On n'est jamais sûr de réussir son gâteau. On redoute la panne de courant.
Oh, la grosse pression.
Il prépare une galette de 1,20 m de diamètre, qui va coûter quand même 330 € à l'Élysée et qui sera partagée par 150 personnes. Mais quelle est la particularité de cette galette?
Ah, c'est la fève.
Elle est en or fin. Elle est bling bling, c'est une Rolex.
Non.
C'est une paire de Ray-Ban. Attention, ça fait mal aux dents.
Elle a été faite par un artisan particulier qu'il faut trouver peut-être.
Non,
c'est la fève.
Je viens de le dire, le nom de l'artisan.
Non, c'est la fève.
La fève. Ah, la fève, non.
Le matériau,
c'est la forme qui est bizarre.
Non, plus.
Est-ce que c'est quelque chose, ce qu'elle dessine?
Non.
Enfin, ce qu'elle représente?
Non.
Non. Ça a l'air de vous faire rire.
La matière de la fève.
Oui, le matériau.
Non.
Genre, on peut la
bouger. Il n'y a pas de fève.
Il n'y a pas de fève. Bonne réponse de Pierre Bénichou.
Parce que nous sommes en République. Or, celui qui a la fève est le roi ou la reine.
Jamais de fève pour le président à l'Élysée, car il ne peut pas être roi. C'est dans le protocole de l'Élysée.
Tu te fous de ma gueule.
Mais non, c'est écrit dans le journal, enfin.
Parce que la galette des rois, en fait, c'est une tradition qui a démarré sous Louis XIV. Je sais pas si t'es au courant. Non, mais c'est la vérité, en fait. C'est, tu sais que les fêtes étaient très fastueuses à Versailles, en fait. Et pour le 31, évidemment, tout le monde vomissait, ça faisait des galettes dans tout Versailles.
Oh
et ils réunissaient ça
c'est
comme
ça. On appelait ça le palais dégueulasse.
Voilà. Et ensuite, ils resservaient ça à tous les pauvres le dimanche d'après en faisant chauffer la galette. Et ça s'est appelé la galette des rois, d'où le nom.
Non, mais attendez, c'est grotesque, ce truc du protocole.
Je suis content. Tous les samedis, c'était la fève du samedi soir, on appelait ça.
Je suis content d'apprendre l'histoire avec Fabrice, moi.
Il y a un dessin très amusant dans Charlie, en tout cas, cette semaine, où on voit les rois mages.
En Galilée?
Oui, en Galilée.
Et... en train de prendre une bombe sur la gueule, tu sais, ils arrivent comme ça.
Non, il y en a un qui est black sur les trois rois mages.
Ouais. Ah ouais.
Et alors là, il est porté par les deux autres dans une chaise à porteurs. Lui, sur une chaise, et les deux autres le portent, et les deux autres, il y en a marre de l'effet Obama.
Ah, c'est très bien.
La gaieté, c'est la moitié de la santé. Et bien avec Europe 1, tous les après-midi, c'est ce que nous vous apportons, hein, du sourire, du rire, avec les meilleurs moments dont va gêner Laurent Ruquier et toute sa bande.
Europe 1, la question politiquement incorrecte.
Attention au dérapage.
Eh oui, attention au dérapage, puisque la question concerne une Roumaine qui s'est... Qu'est-ce qu'il y a?
Rien.
Qui s'est présentée... Ah non, mais c'est pas parce qu'elle est Roumaine. Mirella Gradinaru, c'est son nom, à 37 ans. Et elle s'est présentée à l'hôpital d'Arad, à l'ouest de la Roumanie. Et tout le pays en parle encore. Pourquoi?
Elle a voulu se faire amputer d'une jambe pour travailler.
Là, c'est manqué.
Oh, c'est horrible.
Voilà, bah, tu vois, le dérapage, il a eu lieu finalement.
Oh, my god. Oh là là.
Oui, ça, elle pouvait pas se faire amputer d'un bras. Elle aurait pas pu faire la manche.
Non, elle avait plutôt quelque chose en plus que quelque chose en moins.
Elle s'est fait, greffer un truc pour nettoyer les pare-brises.
Non.
Elle avait deux utérus.
Quoi?
Deux utérus.
Bah oui. Non, je sais pas.
Oui, la Roumaine a deux utérus. C'est connu. C'est pour ça qu'elle a tant d'enfants.
Oh non.
Parce que pour les emmener dans la rue.
Un pays européen, écoutez, franchement.
Alors, oui, il mais faut de des enfants. Parce que la Roumaine sans enfants ne rapporte rien.
C'est coincé la main dans son accordéon.
Oh non, mais les clichés racistes.
Ah, t'avais
non,
dit
c'est pas raciste.
Dérapage possible.
Non, c'est pas raciste.
Elle s'est fait retirer. Philippe.
Ouais, non, là, je suis consterné.
Oh oui, voilà.
Elle s'est fait retirer là. Quelque chose, c'est ça?
Ah, ça, c'est vrai qu'elle s'est fait retirer
s'est
quelque
fait
chose.
Retirer quelque
un œil. Non, c'est un organe.
Est-ce que c'est un corps étranger?
Un corps étranger.
Ah, elle avait quelque chose de bloqué quelque part.
Elle avait fait un truc pas propre avec son sexe.
Pas avec le sexe.
Ah, dans l'œsophage.
Avec les fesses.
L'anus.
Dans le rectum.
Oui, elle avait.
Un parcmètre. Une bouteille de coca.
Un parcmètre.
Une bouteille de champagne pour le nouvel an.
Non, pas une bouteille de champagne.
Une statue de l'ex-dictateur,
attends.
Non
de ça, bon, elle est arrivée à l'hôpital.
Ceausescu dans le cul. Ceausescu dans le cul.
Mais ils ont eu assez longtemps comme ça. Ça va.
Non, mais je vais vous dire quoi.
God.
Non, mais c'était volontaire ou pas?
Ah, ben non, justement, c'est ça le drame.
Ah, c'est assis sur quelque chose, un œuf.
Ah non.
Une boule.
Non, mais pas genre sur
une boule ou une bougie.
Sur un levier de vitesse, un truc
non,
comme ça.
Non.
Regarde, l'autre, il est en train
on
de.
On sent que Stevie, ouais, il énumère tout ce qu'il a essayé, tu sais, un œuf, une bougie. Hein.
Mais non, mais c'était Noël. C'était Noël.
C'était Noël. C'était Noël. Il s'est tout permis,
bien sûr.
Un sapin.
Une guirlande électrique.
Les sentons chez Stevie, ils sentent mauvais, je vais te dire. Hein.
Ah bah j'en ai pas alors, je les ai avalés.
Il y a la crèche qui sent bizarre cette année.
Oh non, la crèche.
J'ai englouti la crèche.
Isabelle, faites quelque chose.
Une boule de billard.
Non, c'est quelque chose que vous utilisez, vous, Christine.
Moi.
Vous, ah bon Isabelle.
Ah, elle a mis l'applicateur du tampon, en
non,
fait.
Non. Peut-être Stevie
c'est
aussi.
C'est quelque chose que j'utilise.
Ah, peut-être un peu Philippe Alphonse.
La crème antiride.
Ah, une faucille, un marteau.
Non.
Pourquoi Christine et moi?
Pas vous, non.
Non,
vous,
pas toi.
Vous pouvez pas en utiliser, non. Ah,
mais Alphonse, oui.
Alphonse, oui. Isabelle, oui.
C'est des cheveux longs. Christine, ce sont les cheveux longs.
C'est lié aux cheveux longs.
Son tube de shampoing?
Non.
Ah, une brosse?
Non.
Un spray?
Alors,
du gel?
De la laque?
Une bombe de laque dans le rectum. Bonne réponse de Christine, bravo.
Poudrez. Alors, ah, moi, pas jamais alors. Ça.
Alphonse VI se laque les cheveux.
Ah, jamais.
Oh, bah, vous avez les cheveux toujours en arrière.
Non, ouais, mais ils sont pas laqués alors. Ah, vraiment,
ils sont pas laqués. Ça,
c'est naturel. Ça, je vais vous...
Alphonse VI, la tarlouse. Il
ça, oui, ils vont finir par croire. Hein.
Une bombe de laque coincée, ça arrive. Enfin, ça arrive.
Ça arrive.
Ah, bah oui, bien sûr. Bah. Je Laurent, peux vous en parler, c'est ça.
Oui. Le docteur Mirandolina Prisca a raconté, nous avions réalisé une radiographie de la zone pour localiser l'objet. Elle était très embarrassée, oui, ça, on comprend. Peu importe la façon dont l'objet est entré, elle souffrait beaucoup. Et un employé de l'hôpital ajoute, ils sont chiés les employés d'hôpitaux parce qu'ils racontent toujours tout. C'était pas juste un petit flacon de déodorant, mais une grosse bombe de laque à cheveux, dit un employé de l'hôpital. Ça fait rire évidemment tout le pays, mais ça doit faire mal.
Ça me rappelle une émission. Non, mais il y a une chaîne en France, ça s'appelle Planète No Limits.
Ça, c'est bon, ça.
Je sais pas si vous la connaissez. Et alors, la dernière fois, il y avait une émission qui s'appelait Tout ce que vous pouvez vous mettre dans l'anus. Donc,
c'est le titre de l'émission.
Oui, oui. Et...
T'as rien d'autre à regarder. Oh putain, la vache.
Mais faites bien attention à ce que vous puissiez le ressortir. Ouais, c'est un titre sûr. Très long. Allez sur notre site internet, vous avez la liste.
C'est sur le nouveau service public.
Il y a pas de publicité.
C'est ça, la publicité sans la télé sans pub. Ouais, ouais. Bah voilà.
C'est quoi cette chaîne de télévision?
Ça s'appelle Planète No Limites. C'est une chaîne du câble.
Et alors, qu'est-ce qu'on voyait?
C'est très très drôle. C'est des trucs absolument dingues. Oui. Des reportages qui sont achetés aux États-Unis parce que tout est doublé. Et alors là, il y avait doublé. Donc, t'as écrit tout ce que vous pouvez vous mettre dans l'anus, mais faites attention à pouvoir le ressortir. Mais avec une voix hyper sérieuse, genre documentaire musical. Allez bien sur notre site internet pour voir. Alors, on y est allé. C'était incroyable, t'as le site internet avec ça, vous pouvez le mettre. Une boule de billard, vous ne pouvez pas parce que vous ne pourrez pas la sortir. C'était hallucinant.
Même avec une queue.
Et surtout, si vous voulez vous mettre un spray dans les fesses. Faites bien attention à avoir des michalaks.
Waouh!
Putain, j'ai trouvé un jeu de mots sur mon nom, c'est la première fois de ma vie.
Oh là là, dis donc.
Ah non, c'est pas mal, Joujou.
C'est nul.
Ouais. Ouais. C'est nul.
Oh, il est nul, ce jeu de mots. Bah, c'est-à-dire que c'est pas évident de trouver et de
un jeu de mots
faire
ce jeu de
mots.
C'est la seule fois dans sa vie où il peut placer un jeu de mots sur son nom. Alors merde, laissez-le. Putain.
On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1.
Jusque-là, il était italien et on vient d'apprendre en fait qu'il serait allemand. Quoi donc ?
Et c'est très important.
Le plus vieil homme du monde.
Non.
Mussolini ?
Non. Jusque-là, on pensait qu'il était italien et on vient d'apprendre qu'il serait en fait allemand.
Toujours vivant ? Le pape ?
Non, pas toujours vivant. Enfin, toujours vivant. Oui. En quelque sorte.
Ah, donc c'est pas ça. Non, ça, c'est un tableau, c'est une œuvre ou quelque chose comme ça.
Non.
C'est pas un tableau.
C'est un homme qu'on a trouvé dans la neige. Il a 3000 ans. Et on a cru longtemps.
Près d'un passage à niveau, Claude. Pas du tout.
Un bâtiment?
Non.
Une invention?
C'est un cadavre, je vous dis. C'est un cadavre.
Claude, n'insistez pas.
Arrête de te projeter en permanence, Claude.
Puisque je vous dis que non.
Oh mon boubouille, là, tu vas me porter la poire.
On va la retrouver sous un TGV.
Ah, les Italiens sont pas contents d'ailleurs de la nouvelle. Hein. Ils continuent à dire non, c'est italien, c'est pas allemand.
Ah, la pizza, les spaghettis?
Pas la pizza, pas les spaghettis.
L'école de chemise,
On est dans la gastronomie,
Le risotto.
Pas le risotto.
Le tiramisu.
Pas misu.
Le salami,
bonne réponse de Pierre Bénichou.
C'est catastrophique. Grillé par un juif arabe sur une question de saucifleur, je suis dégoûté.
Le salami est allemand. L'affaire prend de l'importance. C'est le quotidien conservateur Die Welt qui l'affirme. Le salami est né chez eux, en Allemagne, dans une boucherie allemande qui a découvert les origines de ce saucisson rouge qui viendrait donc de Mecklembourg. C'est dans le nord-est de l'Allemagne.
Moi, j'ai pas de mérite. Ma mère est de Mecklembourg.
Ah oui.
Et ma mère me rapportait du salami tout le temps. Mange ton salami.
Et tu sais, les Allemands, ils ont tout inventé. La feta grecque.
Ah
vous
oui.
Croyez qu'elle vient d'où ? D'Allemagne.
Ah, le reggae, c'est allemand, c'est sûr.
En tout cas, le salami, qu'est-ce que c'est bon ?
Ah bon ?
Ah oui, le salami.
Moi, j'ai une recette de pâtes au salami. Vous hachez
les
votre
pâtes salami. Ah non, alors, moi, je t'aime pas ça.
Je vous en ai fait déjà. Vous avez
Ah, j'avais adoré, patron. Alors là, tu dis quel régal!
Voilà une recette pas chère parce que le salami, c'est pas ce qu'il y a de plus cher.
Non.
Fais-le avec l'accent de Cyril Lignac, peut-être.
Alors, je vous le fais face à Jean-Luc Petit-Renaud. Le bruit du salami.
sent ces braves gens qui l'ont fait.
Que vous hachez dans un robot. Et là, d'un seul coup, plaf. Et vous ajoutez des tomates.
Ah, c'est la tomate, ça.
Ouais, c'est le bruit de la tomate. Avant qu'elle soit farcie. Et après qu'elle ait été farcie, c'est... Ah,
c'est pas pareil.
Et le salami... Vous le hachez avec des tomates pelées, je vous conseille. Oui. Hein, que vous pouvez acheter en boîte, hein. Des tomates pelées en boîte. Vous mettez
chez Delimonop.
En hiver, il faut toujours acheter des tomates pelées parce que la tomate est moins bonne.
Exactement. Alors, vous mettez vos tomates pelées avec votre salami. Vous hachez tout ça. Et au dernier moment, une fois que vos pâtes sont cuites al dente, vous mélangez ça et vous m'en direz des nouvelles, Claude Sarraud.
Alors, quel genre de pâtes? Des spaghettis,
tu mets,
ça marche?
Plutôt des penées, plutôt ouais. Des grosses pâtes, parce que toi, ça fait trop...
Pas les spaghettis, non.
Dis donc, tu mets du fromage.
Non, pas de fromage, Claude.
Pas de fromage.
Non, jamais. Claude.
Des oignons?
Non, mais pas d'oignons
est-ce
chez
que,
moi.
Est-ce que tu...
Au dessert, l'oignon.
Est-ce que tu pratiques le rigatoni, non?
Non, mais Fabrice, vraiment.
Quand t'auras fini de minauder avec l'Africain, tu peux pas... Non, c'est trop, matin. C'est le Queen et Cœur Samba qui se rencontrent ou quoi?
Le Queen et Cœur Samba. Signalons pour nos amis des régions que ce sont deux grandes discothèques parisiennes. Ça existe encore, le Cœur Samba?
Oui, bien sûr.
C'est pas à moi qu'il faut le demander.
Je voudrais vous parler d'un designer anglais de la société Concentrate qui vient de lancer un nouveau crayon. Un crayon de quel genre lancé par ce designer?
Un crayon à papier?
Oui, un crayon à papier.
Et bah de quel genre?
Il a une forme particulière?
Si je vous en parle, c'est parce qu'il est particulier, ce
la
crayon.
La mine se casse plus, un truc comme ça?
Non.
La forme est particulière?
Non.
C'est en rapport avec la mine?
Non.
C'est un rapport avec le matériau.
C'est
la
manière de le tailler?
Non.
Est-ce que ce serait pas un crayon révolutionnaire avec une gomme à l'arrière?
Est-ce qu'il n'y a pas une puce dans le crayon?
On peut plus crever les yeux avec.
Non, des parents vont l'acheter parce qu'ils vont se dire, tiens, ça c'est bien pour nos enfants.
C'est pour les fautes d'orthographe.
Non.
Pour compter.
Non, c'est pas mal, hein. Ce designer anglais a eu de l'idée. Bon, je sais pas si ça va marcher, mais voilà, il paraît que ça fonctionne.
Les instituts vont préférer ce crayon.
Si on écrit mal?
Les instituts s'en fichent, hein, je pense.
Si mais... on écrit mal, ça finit une décharge électrique.
Non.
C'est un crayon qui change de couleur. Comme il y avait le stylo 4 couleurs, maintenant c'est le crayon 4 couleurs.
C'est un rapport avec l'écologie.
Je savais que ça allait être difficile, cette question. Aucun rapport avec l'écologie.
On peut plus le manger.
Ah, on se rapproche.
Alors, donc, ça veut dire que c'est un crayon avec un goût particulier.
Non.
Il est sucré.
Non, c'est la matière.
C'est pas son goût.
Tu te casses la dent si tu
mords. Il y a du poison au bout?
Non.
Non, ça veut dire qu'il est mou.
Non.
Il est comestible?
Non. Qu'est-ce qui vous empêcherait?
Alors, il est amer.
Non. Ouais, comme le vernis qu'on met sur les ongles.
Il est trop gros.
Non.
Plus gros. Il laisse une couleur indélébile sur les lèvres.
Non. Pas bête.
Ça s'appelle d'ailleurs le bâton de rouge.
Vous avez compris, donc, que le designer en question a eu l'idée de lancer un crayon qui...
Une petite décharge?
Non, un crayon qui... Le but de ce crayon,
qui se mange pas.
Qui se mange.
C'est que les enfants arrêtent de le mâcher.
Qui on puisse pas mordre.
Que les enfants arrêtent de le mâcher. Merci, Jérémy, de m'aider. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme idée, ces Anglais?
Il a mis un peu de polonium.
Non. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme idée, ces Anglais, pour que les enfants n'aient pas envie de mâcher leur
crayon? Ah, c'est les Anglais.
Il est trop beau.
Il est en forme de sextoy.
Il est en forme d'escargot.
Ils aiment pas les escargots. Qu'est-ce qu'il a fait vraiment qu'on arrête de le mordiller? Il est trop beau.
Mais oui, par exemple,
ah ouais,
si
il est trop beau, donc on arrête de le mordiller.
Mais non, mais si t'as un symbole dessus, la tête de Zidane, un truc comme ça, tu veux pas le défigurer en
si,
mordant.
Moi j'adorerais, moi je pourrais tout.
Ah, alors c'est la tête de la reine alors peut-être.
Non, tout simplement, il est
méchant.
Non,
il est déjà mâché, il est déjà mâchouillé.
Il est pré-mâché. Bonne réponse, Jérémy Michalak.
Faut être tordu pour trouver, tu vois.
Non, mais c'est vrai.
Moi, ça me débecterait d'acheter un truc pré-mâché. Bah
justement. Mais j'y ai pensé parce que quand t'as la. Vous êtes idiot.
Mais ça me débecterait de l'acheter.
Mais c'est pas vous qui l'achetez, vous l'achetez pour vos enfants.
Mais ça me débecte.
Mais oui, mais vos enfants ne mâcheront pas parce qu'il a été pré-mâché.
Mais on peut toujours mâcher plus que ça ne l'est.
Ouais, mais c'est grave.
Même si ça a été pré-mâché.
Vous passerez à la maison.
Ça a été prémâché par Michalak déjà.
Oh non, ça y est. Mais cette liaison que vous me prêtez avec Jérémy Michalak fait que. Non, mais ma famille se pose des questions.
Et la mienne, tu crois pas qu'elle s'en pose des questions? Plus que la tienne, je te jure.
En tout cas, voilà, les designers anglais ont trouvé la parade. Ils ont lancé sur ce marché des crayons les crayons prémâchés, les enfants seraient moins tentés de poser leurs lèvres dessus trop berque.
Oui, mais, ouais. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui vont prémâcher les crayons non, avant de les donner
prémâché.
Aux enfants.
Faussement prémâchés. Ah ouais,
oui, mais comment on voit qu'un crayon est prémâché? Quoi, il y a des marques dedans? Ah
il
y a
oui.
des.
Mais oui. Oui, c'est le bouquet.
Il est pas mouillé quand même quand on le vend.
Non.
Il y a que le mouillé qui dégoûte dans le prémâchage.
Il y a l'odeur
oui,
sur le bout.
Mais oui.
Non, c'est pas vrai. Vous voyez un stylo qui a déjà été mordillé. Vous ne mordillez pas.
Pas.
Mais si. Non. Quand on le vend, je fais une gomme mâchée. Hein. S'il est sec, tu d'accord. S'il est mouillé, ça te dégoûte.
Je suis d'accord.
Mais c'est vrai.
Quand tu récupères un chewing-gum déjà mâché, s'il est pas mouillé, c'est moins dégoûtant.
Mais tu le bouffes?
Bah oui.
Bah bien sûr. Bah quand t'as pas de chewing-gum, il y en a tout le temps sous les chaises. C'est fait pour quoi, tu crois?
C'est ça.
Moi qui ai connu les premiers chewing-gums.
Ah.
Puisque c'est en, il y a eu les Américains qui ont débarqué en Algérie pendant la guerre. Ils donnaient des chewing-gums. Et il y avait un tarif que des petits revendeurs, c'était chewing-gum neuf. Tant de francs, mâché, tant de francs. Non. Mais oui, on était fous des chewing-gums.
Retrouvez Laurent Ruquier et toute sa bande pour les meilleurs moments dans Vache Gênée. Et oui, c'est sur Europe 1.
Je vous emmène en Seine-et-Marne. Parce que là-bas, si vous levez la tête en Seine-et-Marne, qu'est-ce que vous pouvez voir accroché à certains câbles EDF?
Des gens?
Des gens.
Des oiseaux. Des oiseaux.
Pas des oiseaux.
Un objet insolite?
Des objets insolites.
Des objets insolites qui ont été accrochés volontairement?
Des objets?
Mais enfin, pas des objets. C'est quelque chose, c'est la même chose qui est accrochée à plusieurs endroits. On peut voir ça à Bois-le-Roi, à Saint-Moreau, à Veneux-les-Sablons.
D'accord.
C'est des chaussures?
Des chaussures, oui.
Ça se fait aux États-Unis, je sais qu'on lance ses baskets comme ça.
Bonne réponse de Fabrice Eboué, des baskets. Le gang des baskets sévit encore. C'est un titre du Parisien qu'on a pu voir hier et un article signé Christophe Lacaze. Eslou, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais alors, pourquoi on accroche des baskets ainsi à des câbles EDF? Et vous avez la réponse, monsieur Lacaze Eslou. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Vous êtes journaliste au Parisien, bonjour.
Oui, tout à fait, bonjour Laurent. Non, c'est bien comme ça que ça se prononce.
Alors, pourquoi on accroche des baskets aux câbles EDF?
Pourquoi? Ben justement, la question se pose. Je me suis vraiment posé la question en passant plusieurs fois sous ces câbles. En plus, c'est resté plusieurs semaines. Alors, au début, je me suis demandé si c'était pas des sportifs qui pouvaient pas pratiquer leur activité et puis qui en avaient ras-le-bol de rester à l'arrêt. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas, je vais jeter mes baskets en l'air. Le phénomène s'est aussi reproduit dans la forêt de Fontainebleau. Donc, je me suis demandé si c'était pas les lutins de la forêt.
Non, il n'y va jamais, Michalak.
Normalement, c'est nous qui faisons les blagues, monsieur. Contentez-vous vraiment de bien répondre aux questions, quoi.
Les faits, monsieur, les faits.
Voilà. Enfin, en tout cas, je ne sais pas qui fait ça exactement, mais en tout cas, il doit être très fort et très adroit parce que à un certain endroit, c'est quand même assez 5-6 mètres de haut, donc sur une route assez fréquentée en plus, donc voilà.
Je vais vous passer la photo des baskets autour du câble EDF, par exemple à Bois-le-Roi. Vous vous dites qu'en fait on voit des baskets comme ça dans le générique de Plus belle la vie, c'est vrai ou pas?
C'est très furtif, hein. Ça dure une demi-seconde, à peu près au milieu du générique, je m'en suis aperçu en regardant.
Mais c'est des baskets accrochées à un fil électrique dans le générique de Plus belle la vie?
Oui,
je sais qu'il aimait là-haut, c'est un basketteur très très grand.
Oui. Je voulais vous dire qu'il y en a également à Paris, vous savez que dans les rues de Paris, quelquefois, pour les décorations de Noël en particulier, ils tendent des câbles au travers de la rue. Et ben, dans tous les câbles qui sont restés après les fêtes de Noël, il y a déjà des baskets qui sont mises comme ça.
Bien sûr.
Alors là, à Bois-le-Roi, à Veneux-les-Sablons et à Saint-Moreau, les baskets sont peintes, elles sont en rose fuchsia et en doré.
Ah,
c'est quelle pointure à peu près?
Je sais pas, comme ça je dirais 44-45. Hein.
Non, mais est-ce que vous avez une explication rationnelle quand même?
Non. Je me suis demandé si c'était pas Roselyne Bachelot, vu la couleur, mais
Lâchez-moi les baskets ou accrochez-les, en tout cas. Dès que vous avez une explication rationnelle, vous nous rappelez, Christophe Lacaze.
Alors, je tiens à dire aussi qu'aux dernières nouvelles, hein, d'après mes indices, le phénomène continue à Dame Marie Lélis à côté de Melun.
Ah, très bien. Donc, ça veut dire que le phénomène s'amplifie et avec nous cet après-midi sur Europe 1, on risque de voir des baskets de plus en plus accrochés comme ça. Pierre a une explication.
C'est un mouvement qui vient de l'étranger, ça.
C'est les terroristes afghans, ça.
On sent l'envahisseur qui pose ses premiers jalons ici.
La cinquième colonne.
On vous remercie en tout cas et continuez à enquêter aux Parisiens. Merci.
Merci.
Et pour la dernière fois ce soir, vous retrouvez Laurent Ruquier et toute sa bande qui nous apprennent toujours quelque chose sur Europe 1.
Ce week-end, on a pu voir des Allemandes battre des Françaises en finale. Dans quelle discipline?
Du sport.
Alors, du sport, certains disent que c'est un sport, d'autres... En tout cas, la France ne le reconnaît pas comme un sport.
C'est des voitures?
C'est pas des voitures.
Non, c'est au bridge, tricot.
C'est pas du bridge, c'est pas du tricot.
Du tricot.
C'est c'est comme mettant, on dit la pétanque, quoi.
Pétanque.
C'est physique, mais est-ce que ça peut être un jeu comme ça?
En tout cas, les Allemandes ont battu les Françaises en finale.
C'est physique?
c'est physique. Alors certains disent que ça muscle et que c'est physique.
Ça muscle quoi?
Ah bah, je vais pas vous le dire.
Les pieds?
Pas les pieds.
Les mains?
Les poignets?
Les poignets, oui.
Le baby-foot.
Le baby-foot, bonne réponse de Titoff.
Ah oui, j'ai vu ça.
C'était la deuxième édition de la Coupe du Monde de baby-foot.
C'est un sport, le baby-foot, attends.
Oh non, c'est pas.
Moi, j'ai terminé, j'étais en âge.
C'est moins physique que le flipper, mais...
C'était ce week-end à Nantes, et pour la première fois, la compétition avait d'un côté les hommes, mais de l'autre, des femmes. Et les Françaises se sont fait battre par les Allemandes en finale de baby-foot. Chez les hommes, ce sont les Américains qui ont remporté le titre en finale contre les Pays-Bas.
Et c'était balle dure ou balle molle?
Comment ça, balle dure ou balle molle?
Bah, il y avait balle dure et balle molle au baby-foot. Ah bon, est-ce que les assurances étaient autorisées?
Non, mais...
Je vais demander au président de la fédération.
Est-ce qu'ils avaient le droit de mouliner ou pas?
On va demander tout ça à Farid Lounas, qui est président de la Fédération française et internationale de football de table, car on dit football de table. Bonjour, monsieur Lounas.
Bonjour.
Vous avez entendu les questions posées. Alors, première question de Titoff.
Oui. Balle dure ou balle molle?
Balle dure, mais je vois que c'est un spécialiste. Hein. En fait, maintenant, le standard mondial, c'est des balles en plastique. Hein.
C'est quoi les assurances?
Non, c'est quand t'as la balle sous le joueur et que tu tires de, vers toi et pour envoyer la balle. Et donc c'est assez facile de marquer comme ça quand tu n'es pas entraîné, tu vois. Mais il faut que la balle soit en mouvement, non, c'est très important.
On a un spécialiste là,
vous pouvez imaginer que j'ai passé quand j'allais au collège, j'ai passé ma vie à jouer au baby-foot.
Il a fait un BEP baby-foot.
Au lieu d'aller à l'école.
Il s'est rempli de grenadines au baby-foot.
Ah, c'est. Alors l'autre question, c'était quoi alors
sur le jeu merveilleux, le baby-foot.
Sur le baby-foot, c'était ah oui, est-ce qu'on a le droit de faire la roulette?
Alors on n'a pas le droit de faire de roulette, il faut que ça soit limité à un tour. Donc les règles sont beaucoup plus simples que celles qu'on peut connaître plus ou moins dans les 1500 bars ou dans les 3000 bars dans lesquels vous avez pu pratiquer avant.
Oh non, moi j'avais pas fait 3000, j'en ai fait 2 ou 3 bars.
Et les mêmes, toujours les mêmes.
On peut aller à la pêche, on peut pêcher encore ou pas?
Non, maintenant il y a un règlement unique, mais on peut pas pêcher, non. On peut pas mettre les mains dans le baby-foot.
C'est quand une fois que vous avez marqué, vous récupérez avec la main avant qu'elle tombe la balle dans le but adverse, en fait.
C'est pour plus un moins un, comme ça la balle elle est pas perdue, tu as récupéré la balle. Et là alors c'est plus un moins un, tu marques un point l'autre,
je ne comprends rien.
C'est super technique le baby-foot, vous pouvez pas comprendre. Vous, ce que vous aimez, c'est la politique, des trucs comme ça. Ça n'a rien à voir, quoi. On n'a pas du tout les mêmes valeurs.
On n'a pas le droit de marquer des demi, quand même.
On a le droit de marquer des demi, on a le droit.
Quoi? Bien sûr, on peut marquer les demi.
Non.
On peut marquer les demi. On peut pas marquer direct.
C'est scandaleux.
Tu peux pas marquer direct au début à l'engagement, pas marquer les demi. Mais pas
pendant. Ah oui, il a raison.
Mais pendant que tu joues, le charipote sur le baby-foot.
Et les râteaux. Et est-ce qu'il y a râteau au demi quand on touche la balle avec les demi? Il y a râteau.
Je vois qu'il y a des grands spécialistes d'un peu tout. Bon, tout est à peu près faux.
Parce qu'ils sont plus spécialistes du bistrot que du baby.
mais c'est intéressant parce que ce sont des vrais passionnés, donc ça fait plaisir.
Oui. Et c'était quoi la marque de baby-foot? C'est un Bonzini?
Ah bah voilà, là c'est un vrai spécialiste. Effectivement, la marque française, hein, la marque.
Moi je faisais du triathlon, je faisais baby-foot, flipper et bière.
Christine, vous êtes surprise que Pierre soit comme ça?
J'avais l'impression qu'on était chez Pagnol, surtout. C'était assez joli. C'était un moment de poésie dans cette émission.
Bah, c'est comme si tu t'étonnais qu'une fille connaisse la différence entre les collants et les bas et les sockets. Nous, c'est notre vie, baby-foot.
La seule fois où je suis sorti avec 3 footballeurs, c'était une tringle de baby-foot.
C'est comme si toi, tu faisais pas la différence entre un aspirateur et un balai. Tu vois ce que je veux dire? Non.
Alors, est-ce que c'est un sport ou pas, monsieur Lounas?
Alors, c'est à la fois un sport parce que ça, il y a toutes les caractéristiques techniques, physiques et psychologiques d'un sport, et je pense que tous les journalistes qui sont venus ce week-end ont pu le constater. Maintenant, c'est aussi, il faut pas du tout le dissocier, c'est aussi une activité ludique, une activité de plaisir, comme le sport doit l'être. C'est d'abord une activité de jeu.
La France reconnaît moins le baby-foot comme une discipline sportive que d'autres pays qui l'ont inscrit vraiment dans la catégorie sport, on est bien d'accord?
Alors en fait, c'est le ministère n'a pas franchi le pas de reconnaître l'activité comme un sport, bien qu'effectivement dans d'autres pays ça soit fait. Mais il faut savoir que notre demande d'agrément est soutenue par, ça c'est toujours très, très étrange, hein, mais par les deux anciens ministres des sports, Georges Buffet et Jean-François Lamour.
Ouais. Et Madame Bachelot, non?
Madame Bachelot, ben on attend encore un petit peu comme
Je suis sûr que ça l'amuserait beaucoup. Elle aurait dû y aller. Michel,
est-ce qu'il y a une tenue réglementaire pour jouer au baby-foot? Oui. On peut jouer comme on veut.
Culotte et soutien-gorge pour les filles.
Ouais.
Et cravate obligatoire pour les mecs.
D'accord.
Non, sérieusement.
Non, il y a une tenue sportive obligatoire, classique, à part pour les, un championnat du monde comme ce week-end, où là, c'est la tenue nationale du pays qui est obligatoire.
Ça muscle le poignet, vraiment?
Moins que...
Pierre.
Moins que d'autres sports, comme le ping-pong, par exemple.
Moins que le 4-21.
Ça muscle quoi, alors?
Non, en fait, ça muscle principalement, j'ai envie de dire, la partie abdominale, parce qu'il faut être capable de tenir, de frapper pendant des centaines de tirs pendant la journée.
Ça fait des abdos, vous voulez dire?
Oui, non, ça muscle la partie abdominale.
Pour pouvoir être un bon joueur, il faut être capable d'avoir une tenue. Il s'agit de frapper un peu comme moi en boxe, hein, pour pouvoir marquer à haut niveau, bien sûr. Hein, si, quand vous vous amusez, on n'est pas dans ce cadre-là. Mais il s'agit de frapper des centaines de tirs pendant une journée et d'être capable de marquer face à des joueurs qui, eux, ne le souhaitent pas, évidemment. Donc, il faut aller être capable d'être rapide et puissant.
Je suis content, en tout cas, Titoff, d'avoir trouvé un sujet qui vous passionnait pendant au moins 10
c'est
minutes.
C'est la première fois.
Non, non, c'est tu calé, sais quoi, hein. C'est des réminiscences de partie d'une partie de vie qui bien est sûr. De l'adolescence à jusqu'à maintenant, quoi.
Michalak, vous avez déjà joué, mais vous étiez sur le bébé.
Ouais, c'est vrai. Fait mal aux fesses un peu, la barre métallique, là. Hein.
C'est un truc de teigneux.
Au début, ça gêne.
Non, c'est un truc. C'est
de
vrai
teigneux,
que.
De petit con.
Non,
mais je parle des garçons dans les bars, ils veulent vraiment marquer.
C'est un jeu de bar. Tous les jeux, c'est pareil. Toi, tu penses que ça doit être pour rigoler entre copains.
Ah non,
c'est bon.
Pas du tout.
Mais il y a des gens que quand ils deviennent bons, ils essayent de faire de la compétition, d'être meilleurs et ils prennent ça au sérieux. C'est comme.
Ils se la pètent, t'as jamais vu.
Non, moi je trouve
jouer.
Qu'en tout cas, d'ailleurs, c'est marqué dans l'article. En France, tous les jeux, tout ce qui est ludique, c'est souvent vu un peu de haut. Il faut regarder tout le temps le côté intellectuel. Non. Moi, je trouve que souvent le jeu apporte quelque chose de ludique et notamment justement pour les enfants, de très intéressant pour l'imagination et pour la détente et être bien dans sa peau.
Vous êtes champion de PlayStation aussi.
Je suis pas mal non plus. Oui.
Formation complète.
La conversation.
Et sa femme est contente parce que ça se passe pas au bar.
Au moins la PlayStation c'est à la maison.
C'est à la maison.
On vous remercie Monsieur Farid Lounas.
Merci.
Et quand a lieu la prochaine compétition?
Alors la prochaine, ça va être en France en tous les cas. Hein. La prochaine compétition mondiale, c'est à Aubonne dans le Val d'Oise.
Merci Farid Lounas, président de la Fédération française et internationale de football de table.
Merci Laurent Ruquier, on vous retrouve dès demain de 16h à 18h sur Europe 1. Très très bonne soirée justement avec Europe 1. 16h-18h sur Europe 1, Laurent Ruquier et toute sa bande.